Femme, vie, liberté avec Farid Vaïd.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Bientôt 2 ans qu'une jeune fille dans les rues de Téhéran s'est fait arrêter par la police des mœurs pour un voile mal porté. Bientôt 2 ans que Mahsa Amini est morte, assassinée par la dictature des mollahs. Depuis, le soulèvement « Femme, vie, liberté » avance, que ce soit avec force, cris et autodafé, ou tout en sourdine, le soulèvement continue d'avancer. Il se trouve que dans le monde et depuis Paris, un réseau de solidarité s'organise. En sol majeur accueille aujourd'hui un cœur iranien exilé et qui fait de sa formation de politologue une force d'engagement. Farid Vaïd, également co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès, est l'un des contributeurs de « Femmes, vie, liberté », cette bande dessinée collective emmenée par Marjane Satrapi, pour ne jamais enterrer le désir de liberté de Mahsa Amini.
On dit toujours, il y a toujours une plume qui descend doucement sur le dos de chameau. Et même s'il y a beaucoup de choses sur le dos de chameau, c'est cette plume qui va casser le dos de chameau. Et je crois que la mort de Mahsa, c'était cette graine de sable qui a cassé l'usine complètement. Il y a une graine qui rentre dans une grosse machine. Et cette graine-là, ça casse tout. Et la mort de Mahsa, c'était quelque chose qui a touché l'endroit le plus profond de chaque... femmes et hommes iraniens, c'était le cri de corps. Moi, je me suis même pas rendu compte comment j'ai pris mon téléphone et j'ai, comme c'était, on dirait, un cri de mes doigts et mes mains que je me suis mis à regarder, poster moi, que je suis pas très, j'ai pas ma tête dans les réseaux sociaux. C'était insupportable, c'était impardonnable, c'était quelque chose qui était le niveau d'absurdité de ce qui s'est passé, c'était au-delà d'imagination et je crois que c'est ça qui a provoqué quand même le peuple iranien aussi, pas seulement le peuple iranien mais le monde entier, parce que c'était quelque chose qui n'était pas juste.
La voix de la comédienne Golshifteh Farahani pour Mediapart et pour vous accueillir en sol majeur, Farid Vaïd, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous croyez, comme Golshifteh qu'on écoutait à l'instant, que la mort de Mahsa Amini, c'est la goutte d'eau, la plume qui va finir par détruire la machine broyeuse des mollahs ?
Comme elle le disait très bien, ça a touché vraiment les émotions des Iraniens de manière très profonde. Et moi, je suis très optimiste pour l'avenir de l'Iran et des Iraniens. Inquiet à court terme, mais très optimiste parce qu'on voit que les Iraniens, ces dernières années, ils auraient pu sortir pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, pour plein de raisons. Il n'y a pas de misère qui manque en Iran en ce moment, malheureusement. Mais ils sont sortis après l'assassinat d'une jeune femme pour un voile mal porté. Ça montre toute la mentalité des Iraniens en ce moment et c'est très prometteur.
Alors on va en parler, on va parler de ça, mais de vous aussi. Bienvenue sur RFI.
J'y comme. J'aime. J'aime pas.
L'Ave Maria.
Oui, magnifique. C'est ce que j'aime peut-être de plus dans la culture occidentale. Ces œuvres-là qui me font vibrer. J'aime Marie, j'aime Ave Maria.
Vous aimez la Sainte Vierge ?
Plus que aimer, ouais. J'ai une relation, à dire, particulière avec la Sainte Vierge.
C'est-à-dire ?
Je lui parle, elle me parle, je me sens très proche d'elle. Voilà, c'est personnel. Quand j'ai perdu ma mère, je me suis rendu dans une église. Je ne pouvais pas retourner en Iran. Je n'ai pas pu participer aux funérailles de ma mère. Je ne suis toujours pas allé sur sa tombe. Donc voilà, c'est difficile pour un enfant aîné, en plus. Mais je me suis rendu dans une église et j'ai prié la Vierge. Voilà.
La Fatiha, qui est la première sourate du Coran, la mère du Coran, comme aurait dit Mahomet. Vous aimez ou pas ?
Oui, moi j'aime. Ouais. C'est un beau texte. J'ai grandi avec aussi. J'aime. Ouais.
C'est juste un texte ?
C'est plus qu'un texte. Ça symbolise en tout cas plus qu'un texte. C'est plus qu'un texte pour beaucoup de gens. Non, c'est sacré pour des millions de gens, donc c'est pas juste un texte.
Et vous rentrez aussi facilement dans une mosquée que dans une église ?
Non. Non, plus maintenant, non.
Pourquoi ?
En France, j'y arrive pas. J'ai beaucoup plus de facilité à rentrer dans une église que dans une mosquée. Pour plein de raisons. Je me sens pas à l'aise, tout simplement. Je retrouve pas la même... Bon, déjà en Iran, j'allais rarement dans une mosquée. J'allais dans les mosquées d'Isfahan pour les visiter, c'est des merveilles d'architecture. En Turquie, je suis allé dans des mosquées, j'ai adoré l'architecture. Mais même au-delà de l'architecture, la spiritualité que je peux trouver dans une mosquée en Iran ou en Turquie, je ne l'ai pas trouvée en France.
Ça tient à quoi ?
Je ne sais pas. Mais moi, je trouve plus une présence divine, en France en tout cas, dans une église que dans une mosquée. Sans vouloir polémiquer, mais... C'est ce que je ressens. Après, la spiritualité iranienne, elle est particulière aussi. C'est une spiritualité très poétique, pas forcément liée aux textes religieux. Je sais que beaucoup de musulmans en France considèrent que les Iraniens ne sont pas des musulmans. Bon, c'est encore une autre question. Mais voilà, je préfère aujourd'hui les églises.
Vivre en couple mixte.
C'est quoi un couple mixte ?
Bah, je sais pas. Ça peut être une amoureuse catholique et un amoureux musulman.
Bah, je le vis. Ma femme est catholique, pratiquante, donc ça, c'est très bien. Je trouve que c'est très riche. Je pense que ça va être très bien pour notre fille aussi. Je recommande.
La montagne.
J'adore. La montagne, c'est la vie pour moi. Je trouve tout ce que j'aime à la montagne, le calme, le silence, encore une fois, une présence divine. Voilà, ça m'a sauvé, la montagne, que ce soit à Téhéran ou les Alpes en France. Dans des moments d'extrême souffrance, de stress, c'est la montagne et la mer.
Le mouvement vert, ce soulèvement post-électoral qui a suivi l'élection présidentielle de 2009.
Ouais, dans l'immédiat, je dirais que j'aime pas. C'est pas que j'aime pas le mouvement vert, mais j'avais 17 ans, c'était ma première année d'études à l'université de Téhéran, et je devais passer devant les gardes, on va dire, spéciales, pour aller à l'université. C'était une ambiance très noire. Des camarades qui se faisaient arrêter, qui revenaient après 6 mois, des gens qui se faisaient torturer, des jeunes femmes qui se faisaient assassiner. Voilà, de voir tout ça tous les jours, de passer dans les forces de répression pour aller participer à ces cours de mathématiques. J'aime le côté où un peuple s'est rebellé contre la dictature, mais pour moi, c'est une adolescence et une jeunesse un peu trop sombre.
J'ai envie de vous faire écouter quelque chose, Farid.
Ou de femmes politiques ce soir, mais ça y est, vous le savez, évidemment, le premier tour est passé, il va donc falloir faire un choix dans 8 jours, et le choix, tout le monde le sait maintenant, c'est entre Emmanuel Macron et Madame Le Pen.
Laurent Ruquier, vous aimez ou pas ?
Ah, j'adore, c'est... c'est grâce à lui que je parle toujours français, je pense. Parce que voilà, moi j'ai grandi, je suis né à Téhéran, mais j'ai grandi en France jusqu'à mes 10 ans en Bretagne, après nous sommes retournés en Iran, et mon père, il adorait l'émission de Laurent Ruquier, il regardait ça tous les week-ends sur TF5, et je regardais avec lui, et c'est en grande partie comme ça que j'ai entretenu ma francophonie.
C'est pas vrai, vous savez que c'est la semaine de la francophonie. Alors magnifique. Un bon point à Laurent Ruquier.
Voilà.
Vous êtes issu, Farid Vahid, d'une famille éduquée, parents diplômés, c'est-à-dire ?
Tous les deux professeurs d'université. Ils ont eu leur doctorat à Rennes. C'est pour ça que j'ai passé mes premières années d'enfance en Bretagne. Mes grands-parents aussi, professeurs, mes oncles et tantes, donc une famille de profs d'université. Voilà.
Qui pouvaient rire aux vannes de Laurent Ruquier, donc c'était relax quand même.
Voilà, tout à fait.
Comme vous êtes un garçon, Farid, il y a quand même eu la question du service militaire pour vous.
Pas pour moi, heureusement, parce qu'il y a des règles en Iran, il y a des dérogations, et mes parents étaient malheureusement divorcés, heureusement. Il y a des règles spécifiques en Iran, j'étais le seul fils majeur de ma mère, donc
soutien de famille.
Voilà. Elle n'avait pas besoin de moi, mais bon.
Ça, c'est du commentaire off.
Voilà, mais j'ai pu ne pas faire mon service militaire, heureusement, parce que c'est 2 ans. Je n'avais pas du tout envie de le faire. D'ailleurs, après, ça cause beaucoup de problèmes. J'ai des amis maintenant qui auraient pu étudier à Harvard ou à MIT, dans les plus grandes universités aux États-Unis, mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont fait leur service militaire. Donc moi, j'ai vraiment eu cette chance de ne pas perdre mes 2 ans.
Alors, vous avez, je crois, comprendre le cœur partagé entre la Bretagne et Téhéran, aujourd'hui encore. Mais dans votre parcours, après votre diplôme d'ingénieur, on se dit que vous auriez pu tracer vers les États-Unis plutôt que vers la France.
Je me posais la question. On était 130 dans la promotion à l'université de Téhéran. Je pense qu'il y a 90 camarades qui sont maintenant aux États-Unis. C'est plus facile. Il y a plus de financement pour les doctorants. C'est peut-être un pays plus ambitieux, en tout cas qui a les moyens dans le domaine technologique. Mais moi, j'ai choisi la France pour 2 raisons. Déjà, j'avais envie de rentrer dans les sciences humaines. Je n'avais pas envie d'être ingénieur. Et j'avais grandi en France. Et j'aime ce pays, j'aime la littérature. Il y a des choses que je n'aime pas, mais j'aime beaucoup plus la France et l'Europe que les États-Unis. Voilà, je me sens beaucoup plus européen qu'américain. Je ne suis pas américain du tout, même si je connais très bien leur culture. Et les Iraniens, paradoxalement, sont très américanisés. Mais eux aussi, ma femme, que j'avais rencontrée à l'époque à Téhéran. Donc tout ça, ça a joué dans mon choix.
Quand même, je me demandais quand est-ce que vous alliez rendre hommage à votre femme, quand même.
Ouais, on s'est rencontrés à Téhéran. Elle passait son année de mobilité à Téhéran. Et, ouais, ça a beaucoup joué aussi dans mon choix. Ouais.
Et retourner en Iran, ça, ce n'est pas vraiment un choix auquel vous avez réfléchi.
Aujourd'hui, c'est impossible. Mais en 2017, quand j'ai quitté l'Iran, je me souviens très bien, à 4h du matin... On quitte l'immeuble, on dit au revoir à mon père, à mes frères et sœurs, et c'était pas du tout dans l'optique de ne pas retourner. Mais bon, la tristesse aussi, la tragédie de l'Iran, c'est qu'une fois que vous décidez de vous engager, vous devez mettre tout le pays de côté, la famille, les grands-parents, la terre.
De vous engager politiquement, vous voulez dire ?
Politiquement, médiatiquement, dès lors qu'on parle chez vous, la radio, la télé, on écrit un livre. C'est la ligne rouge du régime, donc... Voilà, moi, avec le mouvement Femmes de Liberté, j'ai considéré qu'on ne pouvait pas laisser passer, qu'on ne pouvait pas ne rien dire. Mais ce n'est pas anodin. Et aujourd'hui, je ne peux pas retourner, mais je pense que dans quelques années, ça arrivera. On reste optimiste.
Thank you. Ça se passe sur RFI avec un ténor de la musique classique iranienne nommé Mohammad Reza Shajarian. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on peut dire, Farid Vahid, de ce morceau, Morghe Sahar?
Morghe Sahar, Shajarian, c'est le maître ultime de la musique traditionnelle et savante iranienne. Et quand j'étais petit, mes parents écoutaient beaucoup cette chanson dans la voiture. Moi, je n'aimais pas du tout, ça m'ennuyait. Mais maintenant, je me rends compte de l'extrême beauté de ce chant qui il s'adresse à un oiseau. Ça évoque la nature, le vin. Il y a de la mélancolie, mais beaucoup de joie. Ouais, c'est vraiment l'Iran un peu dans tous ses paradoxes, sa complexité. Le texte est assez triste, le poème.
C'est Rumi, un peu?
Oui, mais à la fin, c'est la promesse du soleil, et c'est la fin de la nuit longue.
C'est une métaphore pour l'Iran d'aujourd'hui.
Exactement. Ouais.
Farid Vahid, iranien de naissance, d'essence engagée, version politologue.
در اون ماه مردم آمادن برای شنیدن مطالب حق و الان مطلب حق ما
انفان
همین قضیه ایست که پیش داریم که
است که بوره ویه ده فر لا رپولیسیون
و ماه محرم را من هم کردم که راجع به این مسائل صحبت
فرید وعید
انفان سی جرای ده فر لا رپولیسیون انفان je pense comme beaucoup d'Iraniens on a envie d'avoir une vie normale. Mais malheureusement, ça veut dire passer par une révolution.
C'est mais vous étiez conscient, je reste sur l'enfant que vous avez été, vous étiez conscient, enfant, à votre mesure, quoi, de ce qui se passait dans le pays, de ce qui se passait politiquement.
Oui, parce que moi, jusqu'à mes 10 ans, j'étais en Bretagne, en France. Et quand on retourne en Iran, bah, je comprends que c'est différent. À l'école, déjà, il n'y a plus de filles. Dans la rue, les filles sont voilées. Et la prière obligatoire. Donc, si, je me rends compte que c'est quand même pas une situation normale. Après, on était protégé par la famille. J'avais la chance d'être dans une famille ouverte d'esprit et progressiste. Mais moi, le choc entre les deux pays, ça me sautait aux yeux. Mais si, on le sait, en fait. Très vite, on a une conscience politique.
Quand vous dites, Farid Vahid, que vous appartenez à la génération femme, vie, liberté, qu'est-ce que vous sous-entendez exactement?
Alors, il y a la génération de nos grands-parents. Et la génération de la révolution et de la guerre. Et il y a une autre génération. On est né sous la République islamique. En Iran, on n'a vu que la République islamique. Mais paradoxalement, ce qui est intéressant, c'est une génération qui souhaite aujourd'hui la séparation de la religion de la politique et qui est progressiste. Et les gens qui ont 20 ans, 30 ans. Mais je pense que ça a commencé avec notre génération des années 2000-2010.
C'est-à-dire que cette République islamique a produit une génération de...
D'anti-régime.
D'anti-régime.
Tout à fait. Malgré les cours de religion obligatoires, malgré la radio, la télé...
Parce que les cours de religion obligatoires...
À cause de ça. À cause de tout ça, ils ont dégoûté la jeunesse de la religion, tout à fait.
Vous êtes diplômé de l'Université de Téhéran, génie électrique. Vous avez poursuivi donc en France à Sciences Po Lyon. En relations internationales, avec une idée derrière la tête?
Oui, de devenir un jour diplomate au Quai d'Orsay, cadre d'Orient. Mais bon, ça a l'air compliqué. Sachant que je ne suis toujours pas naturalisé, c'est de toute façon impossible, administrativement parlant. Mais oui, c'était l'idée de base. Moi, j'ai toujours... c'était ma passion. J'ai beaucoup aimé mes études d'ingénieur. J'adore les sciences pures aussi, les mathématiques, la physique. J'étais très bon. J'aime beaucoup et je pense que c'est nécessaire d'ailleurs pour un bon diplomate d'être un bon mathématicien aussi.
Qu'est-ce qui a fait reculer cette vocation?
D'être ingénieur?
Non, d'être diplomate, pour le Quai d'Orsay.
Pour plein de raisons. Mais je pense malheureusement... Aujourd'hui, au sein du monde occidental, c'est surtout Washington qui a du poids. C'est les États-Unis. Je ne dis pas que l'Europe n'a pas de poids, il y a beaucoup de choses à faire dans la construction européenne. Mais de toute façon, en France aussi, si on va rentrer dans les détails, c'est plutôt à l'Élysée et les conseillers diplomatiques du président, je pense aujourd'hui, qui ont plus de poids dans les prises de décision. Donc si le président a besoin d'un conseiller, je suis là, mais de passer les concours pour aller au Quai, c'est vraiment un peu moins motivant.
Je ne sais pas si le chemin vers l'Élysée est plus facile que le chemin
peut-être
vers le Quai d'Orsay. Aujourd'hui, le politologue que vous êtes fraye dans un autre univers, on va en parler, mais il fraye aussi avec une certaine Marjane Satrapi. Je le rappelle aux jeunes générations, Marjane Satrapi s'est fait connaître dans les années 2000 avec Persepolis, cette magnifique bande dessinée autobiographique portée à l'écran, et qui retrace son enfance dans le Téhéran du Shah. et puis de la révolution islamique. Elle y raconte notamment que pendant ses études d'art graphique à Téhéran, elle doit passer un test idéologique. Et l'homme qui lui fait passer ce test est, dit-elle, un vrai religieux.
Le problème que j'ai avec la religion, c'est que dans les faits, c'est-à-dire si on pense à ce que prône la religion nous dit il ne faut pas tuer son prochain, il faut aimer son prochain, les valeurs de tolérance, d'amour, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire ceci, etc. En fait, ça a été fait pour faire donner une structure à nous, les grands singes sauvages qui étions, qui sommes devenus des êtres humains. Voilà, on va se donner des règles pour pouvoir vivre bien ensemble. Le but, c'est ça. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que quand vous dites que quelqu'un est très religieux, vous savez d'emblée, quelqu'un de très religieux est homophobe, quelqu'un de très religieux est misogyne, il n'est pas tolérant. En fait, ce n'est pas du tout synonyme de tolérance ni d'ouverture d'esprit et tout ça, parce que le fait est que la religion est misogyne. N'importe quelle religion monothéiste, que ce soit le judaïsme, le christianisme, l'islam, ils sont tous misogynes, parce que la base de tout, c'est le fruit défendu. Il y a Adam et il y a Ève, et c'est la faute d'Ève. Et personne ne dit, quand bien même Ève aurait dit à Adam, « Viens mon petit Adam, on va bouffer une pomme », pourquoi Adam serait aussi con pour dire oui? Adam, il aurait pu aussi dire, « Écoute, non, Ève, on ne va pas bouffer cette pomme ». Mais non, il la suit, et après, c'est la faute d'Ève. Donc vous voyez, il y a toujours comme ça, il y a un problème avec l'image de la femme. Donc déjà, quand vous êtes une femme, je ne sais pas comment on peut être religieux, parce que c'est contre nous, c'est absolument misogyne.
Au micro de France Culture, la liberté de penser de Marjane Satrapi, est-ce que vous êtes d'accord, Farid Vahid, avec la lecture qu'elle fait du très religieux?
Je comprends ce qu'elle dit. Moi, je ne suis pas une femme, donc je peux pas parler à la place des femmes concernant la religion. Quand elle dit que religieux sont misogynes, homophobes, tout ça, bah, on le voit. Mais moi, voilà, j'espère, et je pense qu'il y en a aussi, des gens spirituels, des catholiques, des juifs, des musulmans, qui peuvent aussi avoir cette ouverture d'esprit, et, voilà, de ne pas être homophobe, de ne pas être misogyne. Donc je nuancerai peut-être un peu mes propos.
توی کوچه رخصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای
Alors tous ceux qui suivent ce qui se passe en Iran savent qu'on entend là l'hymne de ce mouvement de contestation, Femme, Vie, Liberté, Baraye, c'est le titre de cet hymne-là. C'est, d'après ce que j'ai compris, une compilation en fait des tweets des manifestants reçus après la mort de Mahsa Amini. Donc Baraye, ce qui veut dire pour.
Pour.
Pourquoi?
Il résume tout ce qui se passe en Iran et c'est pour ça qu'il a fait, la chanson a fait 20 millions de vues en 24 heures, 40 millions en une semaine. C'est devenu un phénomène. Il donne toutes les raisons. Pour les enfants afghans, pour nos sœurs, pour les arbres de l'avenue Wali Asr, il évoque l'écologie, l'égalité homme-femme, il évoque ce paradis obligatoire.
Il a été arrêté.
Et je lui rends hommage parce qu'il a été arrêté et la semaine dernière, il a encore été condamné à 4 ans de prison et aussi une condamnation un peu plus absurde comme faire une chanson contre les crimes des États-Unis, interdiction de sortie du territoire. Donc il est très courageux, il a beaucoup de talent et ce chant a touché le cœur de beaucoup d'Iraniens, mais pas que.
Et ce hymne, il a été mis en image quasiment dans ce livre
Tout un chapitre sur ce,
avec Shabman Adiban. Vous racontez, Farid Vahid, avec vos commentaires à vous, j'imagine, cet hymne de la révolte. Et en fait, quand on le feuillette, on comprend bien les dessous de la société iranienne et effectivement ces paradoxes. Pour danser, il y a un magnifique dessin d'une jeune fille qui a le masque du Covid, mais qui a enlevé son voile et qui est en train de le jeter au feu. Et puis après, il y a toute une série de pour, ce que la société iranienne voudrait obtenir. Donc pour la peur d'un baiser, pour démoisir les cerveaux.
L'Iran est gouverné maintenant depuis trop longtemps par des vieux ayatollahs de 85 ans, 90 ans, qui ont du mal à marcher et qui ont du mal à parler, mais qui contrôlent le destin de tout un pays, qui contrôlent les ressources de tout un pays et qui pensent une façon de penser moyenâgeuse.
Mais la force de ce mouvement de contestation, c'est que les hommes eux-mêmes ont rejoint les femmes.
Ça, c'est... Bien sûr, plus de 90% de ceux qui ont été tués sont des hommes. La totalité de ceux qui ont été exécutés dans la prison sont des hommes. Et de toute façon, en Iran, il n'y aura pas une révolution, un changement de régime sans les hommes. Mais c'est pour ça que je suis très optimiste pour l'avenir de l'Iran. C'est aujourd'hui on voit cette solidarité homme-femme, parce que les hommes ont compris qu'il n'y aura pas de liberté sans la liberté des femmes et que tout est étroitement lié.
Alors, dans cet album BD, avec la dessinatrice cette fois-ci, Maya Nayestani, vous racontez, et c'est le titre de ce chapitre, l'enfer de la prison des vins.
Evin,
oui. On dit. Au crayon noir est dessinée une femme, elle est assise par terre et elle est en cellule. Bientôt 100 jours que je suis assise dans cette petite pièce, c'est ce qu'elle dit. Et puis, c'est comme si la caméra élargissait le point de vue. Et on réalise en fait que 6 femmes sont entassées dans cette mini-cellule. C'est quoi la particularité de cette prison d'Evin ?
Alors, Evin, déjà, quand j'entends ce mot, c'est la prison en Iran qui symbolise beaucoup de crimes, en tout cas, du régime. C'est devenu une université, c'est un slogan iranien, on dit, et Evin est devenu une université. Vous avez tellement de professeurs, d'intellectuels, de réalisateurs, de sportifs qui sont emprisonnés à Evin pour leur opinion politique. Cette prison se trouve au nord de Téhéran, dans la ville. Donc, dans ce chapitre, on voulait rendre surtout hommage à beaucoup de femmes qui avaient été emprisonnées après le mouvement Femmes Liberté.
Parce qu'en fait, il y a écrit sur le mur un prénom.
Oui.
Sur le mur de la cellule.
Nasrin Sotoudeh.
Alors, rappelez-nous qui est Nasrin Sotoudeh.
Une grande avocate iranienne et qui, depuis des années, bien avant le mouvement Femmes Liberté, elle a défendu les femmes qui se dévoilaient dans les rues du pays. Et aussi, l'année dernière, ce qu'on a vu, ce qui était très, très touchant et qui montre un courage mais absolument admirable, c'est ces jeunes femmes emprisonnées, de journalistes ou autres, qui, à la sortie de la prison, enlevaient leur voile, prenaient une photo et publiaient leur photo et parfois retombaient en prison en raison de cette photo.
Il y a une ligne rouge qui a été franchie. Ouais. Il y a eu aussi ces jeunes filles qui faisaient un doigt d'honneur devant les portraits des ayatollahs.
Beaucoup de tabous qui ont été brisés. Et une dictature, surtout une dictature religieuse, ça pose aussi sur les tabous. Donc oui, le fait de brûler leur voile, c'est tout sauf anodin en Iran, c'est vraiment brûler tout un symbole pour l'ADN du régime.
Toujours avec Maya Nayestani, vous racontez la surveillance que vous qualifiez d'orwellienne, dont sont victimes les Iraniens. Et il y a l'histoire de ce tranquille monsieur Jafari qui appartient à la classe moyenne et qui, lui, n'a pas du tout envie de se mêler de politique. Et pourtant, la politique...
Tout est parce politique que vous, en Iran, on peut pas ne
vous
pas...
Vous dites que les Mollahs utilisent des méthodes de manipulation très sophistiquées.
Oui, ça, en Iran, on est tous un peu parano. Quand on vit dans une dictature, forcément, vous êtes parano, mais pour des bonnes raisons. Ils mènent une guerre psychologique, on peut dire, contre la population iranienne. Donc, il y a le volet surveillance. En tout cas, tout le monde pense être surveillé, ce qui n'empêche pas les gens de parler. Vous allez à Téhéran, en Iran, prenez un taxi, tout le monde parle de politique et tout le monde est très dur à l'égard du régime. Mais tout le monde se méfie de la personne qu'il connaît pas. On se méfie les uns des autres. C'est aussi un peu l'un des défis pour structurer une opposition. C'est aussi cette méfiance-là. Et notamment sur les réseaux sociaux, quand on vient sur les techniques un peu plus vicieuses et sophistiquées du régime, on voit qu'il y a des comptes qui se font passer pour des comptes d'opposants. Donc vous pensez que vous avez affaire à un opposant, mais derrière, c'est quelqu'un du régime, mais qui essaye de créer le trouble et la division au sein des oppositions. Et c'est ce genre de technique, finalement, qui pousse les Iraniens à être très, très vigilants, et parfois, bon, ça peut être fatigant.
Où en est, parce que c'est une question qu'on peut se poser dans ce climat que vous décrivez, Farid Vahid, où en est le sentiment religieux des Iraniens aujourd'hui ?
C'est un pays très spirituel. L'Iran est lié à la spiritualité, à l'amour de la nature, à la poésie. On vit avec nos poètes, avec Hafez, Saadi, Ferdowsi, on grandit avec eux, c'est nos boussoles. C'est aussi un pays très religieux. Ça serait malhonnête de dire que l'Iran n'est pas un pays religieux. En revanche, en ce qui concerne la jeunesse, aujourd'hui on voit un dégoût total de la religion, parce que le régime force d'instrumentaliser la religion pour rester au pouvoir, et pour sa corruption, pour ses avantages économiques. Non seulement ça a sécularisé la société iranienne, Mais on voit aussi de plus en plus vraiment une forme de rejet et de dégoût vis-à-vis de l'islam et chiite. Et on le voit d'ailleurs dans les prises de position, même sur la région, même sur le conflit, par exemple, Israël-Palestine, ça se ressent. En fait, c'est le rejet de tout ce qu'il y a à voir de loin ou de proche à l'islam. Là, en ce moment, c'est le Ramadan. Les Iraniens, ça leur parle, mais absolument pas. Très peu de gens qui jeûnent. Déjà, moi, quand j'étais étudiant à l'université de Téhéran, à la mosquée, il y avait des gens qui priaient. Mais proportionnellement à la taille de l'université, il n'y avait presque personne. Donc c'est quand même une société qui s'est sécularisée et ça se comprend. Moi, j'ai fait des études de mathématiques physiques au lycée et des études d'ingénieur à l'université de Téhéran. J'avais toutes les semaines des heures et des heures de cours de religion. Je devais faire les 5 prières. Donc forcément, quand ça passe par l'obligation...
Et vous traîniez des pattes apparemment, hein, j'ose dire.
Tout à fait.
Et quid de la propagande anti-américaine qui est développé aussi là, par le régime des Mollahs.
Alors ça, les Iraniens, je pense que c'est peut-être le peuple le plus américanisé de la région. Il y a une fascination pour les États-Unis. Les jeunes Iraniens connaissent très bien les sports américains, les séries américaines, bien plus que les Français. Mais il y a aussi, je ne caricaturise pas la société iranienne, il y a aussi une partie de la société iranienne qui déteste les États-Unis. C'est un pays complexe, c'est 85 millions d'habitants. Il y a de tout. Moi, je parle des tendances, je parle de la majorité.
Beaucoup
vous
de
avez
minorités.
Des antisémites, vous avez des gens qui détestent les Juifs, Israël, les Américains. Mais je dis juste que c'est une toute petite minorité maintenant.
À la fin de Femmes, Vie, Liberté, Marjane Satrapi réunit les auteurs, les intellectuels, pour réfléchir à l'après. Donc vous le disiez au début de cet ensemble majeur, Farid Vahid, vous êtes évidemment inquiet à court terme, mais dans un futur peut-être lointain et sanguin peut-être, vous pensez que l'Iran pourrait devenir un jour une démocratie?
Pas si lointain, mais sanguin certes. Nous sommes face à un régime qui ne partira pas facilement. On a eu tendance à croire que peut-être qu'on pourrait aller vers un scénario, un effondrement comme l'URSS. C'est pas trop dans leur nature. Donc malheureusement, sanguin, on espère le moins possible. D'ailleurs, c'est pour ça que les Iraniens ne rentrent pas dans une logique de lutte armée aujourd'hui, parce qu'ils veulent à tout prix éviter un bain de sang, mais en même temps, en face, vous avez des gens qui sont prêts à tuer. Après, il y a des échéances en Iran. Le Guide des Vieux, ils sont très divisés à l'intérieur du régime, entre eux-mêmes. Donc ça tient, grâce à lui, il a 85 ans, il est vieux, donc il ne manquera pas de mourir un jour. Il y a des élections législatives il y a une semaine, et il y avait 5% de participation à Téhéran. Le mécontentement est là. La société iranienne sait ce qu'il veut. C'est une société qui veut une égalité, par exemple, homme-femme, qui veut une égalité pour les autres minorités religieuses. Il y a des juifs en Iran, des arméniens, des chrétiens, des zoroastriens qui n'ont pas du tout les mêmes droits que les autres. Donc voilà, les Iraniens veulent déjà être égaux, donc égalité.
Et ça, ce combat-là, il est lancé, il ne peut pas revenir en arrière.
Non, quand on analyse les tendances et le mouvement de fond, la société, la jeunesse iranienne, elle ne va pas redevenir fan de l'islam politique. C'est impossible.
Pourquoi vous dites qu'être iranien, c'est un métier ?
En tout cas, c'est difficile d'être iranien. C'est difficile, c'est fatigant. J'aurais préféré parfois être dans ma tête français, suisse ou norvégien. Voilà, être iranien, c'est fatigant. Là, je vous parle à vous, mais je dois penser aussi aux gens du régime qui vont écouter cette émission, à ma famille, à mes amis. Et on a envie d'avoir un peu plus de légèreté, être un peu plus tranquille.
Alors, ce livre « Femme, vie, liberté », il recueille beaucoup de plumes, on l'a dit, des dessinateurs et trices pluriels. Il y a Johan Sfar... il y a Pascal Rabaté et il y a une certaine Coco qui est en train de défrayer la chronique là depuis quelques jours. Coco qui, pour un dessin sur les Palestiniens en plein Ramadan, a reçu des menaces de mort et a été carrément condamné par les députés LFI Sofia Chikirou. Le dessin est titré « Ramadan à Gaza ». On y voit un homme affamé qui est en train de courir derrière des rats au milieu des ruines, avec des cadavres au milieu de ces ruines. Et une femme est en train de lui taper sur la main et lui dit « Oh, oh, pas avant le coucher du soleil ». Que vous évoque ce nouveau scandale, on va dire, autour d'une caricature qui touche pas à l'islam directement, mais disons au Ramadan?
Je trouve que les gens doivent un peu se calmer. On passe à autre chose, ils peuvent faire des dessins eux aussi.
Mais ça doit vous interpeller quand même, parce que vous venez d'un pays, l'Iran, qui est en train de mettre une main de fer d'obscurantisme absolu au nom de l'islam, justement. Donc vous fuyez cette réalité-là, pour vivre en France une autre réalité où, semble-t-il, depuis 2001 et 2015 en France précisément, il y a ce qu'on appellera une forme de fermeture morale au sein même de la classe politique.
Vous savez, quand il y a des Iraniennes qui voient qu'il y a ce genre de débat en France, parfois c'est très choquant, on se pose des questions. Vous avez raison, nous, quand on est en Iran, l'image que la France donne d'elle à l'international, c'est Voltaire, c'est Rousseau, c'est Hugo, c'est Camus. Et parfois, bon, on voit qu'il y a une autre réalité aussi. Donc oui, ça peut être frappant. Mais en tout cas, moi, personnellement, ça motive. Voilà, je suis très engagé sur l'Iran, mais j'ai envie de m'engager aussi sur les questions intérieures françaises. Donc,
Et si on repartait, avant peut-être d'en dire un mot de ces questions françaises, si on repartait sur les traces d'un certain Joseph Kessel, romancier, journaliste, grand reporter et aventurier qui, en 1965, a tenté l'Afghanistan.
Ce quartier de Kaboul m'enchantait. Je retrouvais avec bonheur l'entrelac de ses ruelles, venelles et impasses. Et aussi les tchaïkhanas, si accueillantes que leur simplicité, leur pauvreté, prenaient la générosité du luxe. Nous sommes entrés dans l'une d'elles qui était située au premier étage d'une maison branlante. Et de cette sorte de balcon, on voyait mieux que de la rue le bazar et sa vie. Oui, on embrassait le bazar dans son ensemble et son détail, dans son instant présent et comme dans son éternité. Car il portait le visage de tous les marchés de l'Asie centrale et avait sur lui la patine des siècles. Et le contemplant, je songeais à l'autre partie de Kaboul, celle où nous habitions, celle qui rejette le passé chaque jour davantage, aux avenues asphaltées, aux édifices, hôtels, restaurants, cafés, copiés sur l'Occident. Je mesurais les changements énormes survenus entre chacun de mes voyages en quelques années. Et je me disais qu'il ne s'arrêterait pas au centre de la ville. Le mouvement était fatal, inexorable. Un jour, et peut-être bientôt, le quartier qui s'étalait sous mon regard allait perdre son merveilleux visage. Et je me penchais sur lui avec une avidité, une tendresse redoublée.
Avec Farid Vahid sur RFI pour En Sol Majeur, donc c'est une carte postale, si j'ose dire, incroyable. Kaboul, vu par Joseph Kessel en 1965, ça vous inspire quoi ?
Quel génie Kessel. J'aurais tellement aimé qu'il fasse un texte, qu'il voyage en Iran, à Isfahan ou Shiraz. Quand j'entends ce texte, je pense à Téhéran. Parce que Téhéran était une magnifique ville, charmante, avec des belles maisons, avec des beaux jardins. Aujourd'hui, il y a une architecture absolument horrible qu'ils appellent en Iran l'architecture néo-romaine, donc qui n'a rien de romain, mais une fascination pour les tours, pour détruire les maisons et les jardins et mettre des tours de 40, 50, 60 étages. Donc c'est très triste de voir que voilà, tout ce charme des bazars, quand il parle du bazar, le bazar de Téhéran, d'Isfahan, de Tabriz, entouré maintenant par des immeubles qui ressemblent à des immeubles communistes. Kessel avait tout vu.
Alors Kessel, mais vous m'avez évoqué aussi un certain Romain Gary, et je me disais que c'était quand même des trempes d'hommes particulières, particuliers, je ne sais plus comment il faut dire, parce qu'ils sont à la fois dans l'érudition, et mais en même temps dans le mouvement de l'histoire, tout en portant avec eux des géographies multiples. Vous les enviez ?
Ah oui, mais c'est des héros, c'est tout ce que j'aime. Ils sont multiculturels, ils viennent d'Europe de l'Est, de Russie, ils sont de confession juive, et ils sont tous les deux passés par le lycée Masséna à Nice, résistants, aviateurs, ils ont fait la guerre, et diplomates, écrivains, aventuriers. Et eux, ils ont aimé la France. Moi, c'est des gens comme eux qui m'ont donné envie de venir en France.
Vous êtes un peu un chevalier des temps modernes, c'est-à-dire derrière un ordinateur.
Malheureusement, tristesse.
C'est une puissance aussi. Vous chevauchez en fait vers quoi exactement ? La mission de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès, que vous co-dirigez, c'est quoi ?
Alors c'est tout simplement essayer d'aider les décideurs politiques, nos diplomates, mais pas que, aussi les journalistes et d'autres personnes qui s'intéressent à la région, de comprendre les sociétés et les pays de la région en profondeur, avec plus de nuances. On essaie de rentrer peut-être un peu plus parfois dans des concepts qui ne vont pas être évoqués dans d'autres médias. Bientôt, je vais écrire un papier sur le concept de l'iranité. Voilà, Nowruz, la poésie en Iran, comment un peuple tient par la poésie. Donc voilà, c'est la mission sur Israël. Essayer aussi de créer des ponts.
Alors, puisque j'ai un politologue sous la main, on y va. Vous avez écrit un article intitulé « Pourquoi la France a un rôle à jouer au Moyen-Orient ?» Mais c'est un article qui date de 2020, donc Joe Biden, je crois, venait d'arriver. Vous évoquez dans cet article le rayonnement intellectuel de la France. Vous évoquez aussi sa vision diplomatique du « parler à tout le monde ». Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui au Moyen-Orient, donc Israël, la Palestine, quelle diplomatie française sérieuse vous imaginez ?
Déjà, il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, face aux États-Unis, on ne fait pas le poids. Il faut comprendre, voilà, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas le même PIB, on n'a pas la même armée, mais on a quand même beaucoup de potentiel. Effectivement, on a ce potentiel culturel qui existe toujours. En Iran, vous prenez un taxi, vous dites que vous êtes français, et le chauffeur va vous parler de Jean Valjean. Et là où certains peuples dans la région vont détester les États-Unis ou l'Angleterre pour des raisons historiques, il n'y a pas ce sentiment anti-français, ce qui n'est par exemple pas le cas de l'Afrique. Mais je trouve qu'au Proche et au Moyen-Orient, la France bénéficie d'une position plutôt favorable. Après, je parlais des États-Unis dans le sens où on doit créer une souveraineté européenne au sein de l'Union européenne. J'espère que la France prendra le leadership courageusement. Ce n'est pas les Allemands qui vont le faire. L'UE peut avoir un poids important. Tout seul, ça va être compliqué. Tout seul, on ne peut pas peser sur le conflit israélo-palestinien. Il ne faut pas rêver. On peut mener des actions humanitaires. On peut essayer de parler à tout le monde. Mais je ne pense pas que Donald Trump, en novembre, va écouter notre ministre des Affaires étrangères. Donc, ça passera sans aucun doute, mais c'est de l'actualité aussi. Il y a les élections européennes. Ça passera par une construction européenne sérieuse.
C'est compliqué. Puis vous rappelez le mot du général de Gaulle qui parlait d'un vol vers l'Orient compliqué avec des idées simples. Ça résume tellement bien, ça. Le hiatus dans lequel la France est toujours un peu coincée. Mais je rappelle que vous êtes doté, Farid Vahid, d'un double logiciel d'analyse, justement. Donc, je pense, persan et rationaliste. Donc, vous êtes plus fort qu'un de Gaulle. Vous donneriez conseil à Macron ?
Un conseil très simple, de plus faire confiance à des profils peut-être atypiques.
Atypiques, voilà. C'est-à-dire ?
J'ai beaucoup de respect pour les énarques, mais je pense que ce n'est pas parce qu'on va être un bon expert des finances publiques, même si là, ils ont eu un peu du mal à calculer le budget, qu'on va être un bon connaisseur de l'Iran ou de la Palestine ou d'Israël. Moi, je ne comprends pas comment on peut avoir des responsables ou des experts qui ne parlent pas la langue d'un pays. C'est impossible. Imaginez un instant en Iran, quelqu'un qui se dit spécialiste d'Heidegger sans parler allemand, ou un spécialiste de Voltaire sans parler français. Et malheureusement, aujourd'hui, peut-être qu'on ne fait pas assez confiance à des étrangers, à des franco quelque chose. Et voilà, je pense que ce serait le rôle de l'État d'essayer de faciliter tout ça. Vous savez, parfois, c'est très frustrant. Moi, j'en connais personnellement des gens qui adorent ce pays, qui croient en la France, en la République française. Mais on voit que de l'autre côté, il y a une certaine méfiance. En tout cas, ce n'est pas réciproque.
À bon entendeur.
Quel est votre coin de hamac préféré?
Ah, ça détend.
Ah, c'est une question difficile. Géographiquement, je vous dirais la montagne. La montagne, donc en France, les Alpes. Et après, Téhéran.
Sachant que l'exil, c'est quand même votre grand sujet.
Ça l'est devenu.
Tout ça fait que il vous arrive de vous identifier à certains poètes iraniens exilés. Comme par exemple un certain Saadi.
Saadi, il a beaucoup voyagé. On a les deux piliers de la poésie persane, c'est Saadi et Hafez. Et ils sont tous les deux nés à Shiraz, à peu près à la même époque. En fait, il n'a jamais quitté Shiraz, et Saadi, il a fait le tour du monde. Moi, voilà, je me vois plus proche de Saadi. Et voilà, je me dis peut-être qu'un jour, comme lui, je retournerai à Shiraz.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu de Saint-Exupéry, que vous aimez bien aussi par cœur, mais je crois que vous avez dans la poche ou en tête un poème de Saadi.
Un poème de Saadi, tout à fait. Alors, Saadi, c'est le poète humaniste par excellence. C'est vraiment là où Hafez va être dans la spiritualité et dans l'amour de la femme ou du divin. Saadi, c'est vraiment des questions plus concrètes, politiques, mais c'est le maître du persan, mais c'est un humaniste. Il y a un poème de lui que j'adore, mais particulièrement. Bon, en persan, c'est Bani Adam Azoye Yekdigaran Chod Osvi Bedard Oyad, des galants Natavanand. Ça veut dire les enfants d'Adam, donc l'humanité, sont tous les membres d'un seul corps. si un membre du corps souffre, les autres membres ne peuvent être indifférents à sa souffrance. Pour moi, tout est dit. On est tous, que ce soit les enfants d'Adam, c'est l'humanité, c'est un seul corps. Si les Iraniens en Iran souffrent, et si les Israéliens, et les Palestiniens, les Africains, les Français, peu importe, on ne peut pas être indifférent. Et c'est cette indifférence-là qui tue, finalement.
Merci Farid Vahid. Je sais que vous avez, et on l'entend, la sensation de toujours vivre avec l'Iran. Pourtant, on va se quitter avec un certain Alan Stivell et son Tri Matelot. C'est pas grave, hein?
Magnifique, j'aime la Bretagne. Donc pour moi, la Bretagne, c'est le romantisme, et j'aime le monde celte. Il y a beaucoup de choses en commun entre la Bretagne et l'Iran, ça peut être étonnant.
Et les druides côté perse, c'est quoi?
Alors ça, c'est un peu différent, mais le romantisme celte et le romantisme perse ont beaucoup de choses en commun. Et moi, je me revendique en tout cas des deux identités.
Au générique de cet ensemble majeur consacré à Farid Vahid, la bande-son de notre invité en trois coups de plume. Premier coup. Deuxième coup.
Quand vous dites que quelqu'un est très religieux, très religieux, vous savez d'emblée, quelqu'un de très religieux est homophobe, quelqu'un de très religieux est misogyne, il n'est pas tolérant. En fait, ce n'est pas du tout synonyme de tolérance ni d'ouverture d'esprit et tout ça.
Troisième coup.
برای توی کوچه رخصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن
Tout ça à retrouver en podcast sur votre application Pure Radio. Caroline Filiat, Théo Raison, Yasmine Chouaki. Demain, on se retrouve au bras de Leïla Berato. Dans un instant, votre journal suivi de La Marche du Monde.